ça ne prouve pas pour autant, en tout cas, le degré de vie spirituelle.
Alors, donc, le sujet de ce soir, le saint sacrifice de la messe et la... On devrait dire le saint sacrifice, la messe, sacrifice, donc la célébration liturgique, puis la messe sacrement qui est l'Eucharistie. Ces deux aspects de la même réalité. Et donc avant cela, ben, parce que je risque d'oublier à la fin de l'instruction, c'est bon que je vous donne une bibliographie, je pense. Je ne fais pas systématiquement, mais là je crois que c'est nécessaire parce que le sujet est très très vaste, très développé. Alors, évidemment, donc je vous conseille le... C'est pas lui qui m'en a parlé, hein. Mais... bon, mais la messe de toujours, donc c'est la messe commentée par Mgr Lefebvre. C'est vraiment excellent. Je crois que la grâce spéciale, Mgr Lefebvre, donc c'était la messe, et aussi une grâce pour expliquer les choses, mettre à la portée les réalités spirituelles de façon simple, aisée. Oui. Donc je vous conseille vivement ce livre, qu'on peut lire, méditer, reprendre. Et ça fait partie de ces livres, voyez-vous, c'est les livres sur la messe en général, ces livres qui doivent nous aider à ce que les choses habituelles ne nous blasent pas. Et donc c'est des livres qu'on peut reprendre, qui doivent pas être un peu les compagnons de notre vie, on les reprend régulièrement. Chaque année, on en lit quelques passages, ou même on en fait son livre de méditation, si on le veut. Bon, parce que vraiment, la messe, bon, je dirais qu'il y a tout le mystère de Dieu dans la messe. Tout le mystère de Dieu s'y trouve. C'est clair, et même il y aura, on peut penser qu'il y a une espèce, on le voit dans l'Apocalypse, une espèce de sacrifice éternel, qui sera purement un sacrifice de louange et d'adoration. Une perpétuation, on pourrait dire qu'il y a une espèce de messe éternelle. Bon. Également, ce livre, je viens juste le ramasser aux tables de presse, que je le connaissais. On le commentait, nous, en liturgie, dans notre au couvent. La messe expliquée aux fidèles, par l'abbé Joly. Très, très bon. Et puis, donc, pro domo. Donc, je vais conseiller aussi des franciscains, évidemment. Donc, le très bon petit livre. Alors, avant les franciscains, les bénédictins. Le Don Guéranger sur la messe, c'est excellent. Les prières de la messe par l'abbé Lebrun, très bon. Bon, il y a une quantité de livres. Et donc, chez les franciscains, deux petits livres, la Sainte Messe expliquée aux fidèles par le père Martin de Cochem. Je pense que ça a dû être réédité à Clovis, je suppose, il me semble bien. Et puis la Sainte Messe par saint Léonard de Port-Maurice. L'avantage de ces livres, c'est pas aussi gros que ça, ni même que la messe de toujours. Mais bon, je pense qu'on les trouve assez facilement. La Sainte Messe de saint Léonard de Port-Maurice, c'est un petit fascicule de... une cinquantaine de pages, mais c'est petit, un petit livre de poche quasiment, tout petit, ça, cinquantaine de pages, petites pages. Martin de Cochem est un peu plus développé, 150 pages je pense, une édition moyenne, un peu ce format-là, voilà, 150 pages de ce format-là à peu près. Mais très riche, très pratique, indiquant bien ce qu'est la messe, les fruits qu'on peut en tirer, et puis la manière d'en profiter pratiquement. Dans une retraite, c'est important que nous vous dispensions, bien sûr, des vérités, comment on pourrait dire ça, théologiques, un peu spéculatives, contemplatives, je dirais, pour pas y mettre une note de complication. Mais, bien sûr, cette contemplation doit se traduire en pratique. Il faut que nous arrivions à vous monnayer des vérités qui ensuite passeront dans votre vie de façon pratique. Voilà. Donc on essaie à la fois de... C'est l'alliance des deux qui est un peu difficile. Rentrons dans le sujet, donc maintenant. Ah oui, dernier livre, c'est sur le plan du livre, c'est celui-là qui m'a aidé le plus. Vous avez donc toujours Fin du monde présent et Mystère de la vie future par l'abbé Armingeon. Et c'est la conférence, c'est le livre qu'avait lu apparemment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dès avant son entrée au Carmel. C'est vraiment un livre, je ne connaissais pas, vraiment très substantiel, très nourrissant. Donc vous avez la huitième conférence qui est sur le sacrifice chrétien moyen de rédemption. Et en fait, c'est la messe sacrifice et la messe sacrement. Voilà. Alors j'entre dans le vif du sujet. Si je retrouve ma feuille. Voilà. Saint sacrifice de la messe. D'abord, voir que dans l'ensemble de l'humanité, l'homme, même après la chute d'Adam, et surtout après la chute d'Adam lorsqu'il a perdu la vraie religion avec le vrai Dieu, l'homme a toujours eu besoin d'une religion. Voilà, parce qu'il voit bien que l'univers dans lequel il est, eh bien, le dépasse. Il dépasse dans toutes ses dimensions, dans sa grandeur, dans sa beauté. Et il a toujours ressenti le besoin de Dieu. Voilà. En ce sens très restreint, c'est vrai que si Dieu n'existait pas, l'homme l'aurait inventé. Et si la religion n'existait pas, l'homme l'aurait inventé. Voilà. Et dans cette religion de l'homme, des hommes, indépendamment même de la religion, toute religion est appuyée sur le sacrifice. Voilà. Faire toute l'histoire, aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé dans la pensée moderne, l'histoire des religions, eh bien, on voit qu'il y a cette notion de sacrifice chez les païens. Toutes les religions, la notion de sacrifice. Et avec cette notion de sacrifice, il y a bien sûr quelqu'un qui offre ce sacrifice, qui est le prêtre. Il y a une divinité à laquelle on offre. Il y a bien sûr des victimes. Là où il y a sacrifice, il y a victimes, immolées. Et donc, il y a des actes de culte qui sont surtout marqués donc par l'immolation de la victime. Donc, il ne faut pas s'étonner que nous retrouvions cela dans la définition que nous allons donner de la messe. Parce que les définitions, vous voyez, sont des joyaux qui, médités, eh bien, produisent toujours beaucoup de vie. Alors, une définition un peu, à partir de cette idée d'abord naturelle, une définition de ce qu'est la messe. Alors, la messe, c'est d'abord un acte public. Voilà, un acte public, pour le différencier d'un acte qui serait simplement privé, individuel, comme serait, je ne sais pas moi, la prière privée ou l'oraison, que sais-je. C'est un acte public. Et il consiste, cet acte public, deuxième partie de la définition, dans une oblation, offero, oblatio, une offrande. De quoi ? D'une chose sensible, donc acte public, qui consiste dans l'oblation d'une chose sensible et qui est extérieure à l'homme. D'abord extérieure à l'homme. Après, on va voir que justement, plus la religion est pure, plus en fait c'est l'offrande de l'homme lui-même. Et dans la religion catholique, c'est l'offrande de l'homme Dieu. La vraie religion avec le vrai sacrifice. La chose elle-même, la chose sensible extérieure à l'homme d'abord, et puis ensuite de plus en plus intérieure au fur et à mesure, on verra la religion, car même les sacrifices extérieurs dans l'Ancien Testament, par exemple, ils ont en vue de manifester l'offrande intérieure de l'homme. Donc c'est une chose offerte, et cette chose offerte sensible doit être détruite ou altérée. Voilà. Qu'elle soit vraiment sacrifiée. Vous voyez par exemple dans le sacrifice de Caïn et Abel, qui offrent des fruits, l'autre peut-être des animaux. Dans le cas, bien sûr, de la messe, c'est l'offrande au vrai Dieu. Et par rapport à Dieu, justement, c'est la plus haute reconnaissance du droit et de l'infinie souveraineté de Dieu. Oui. Même s'il n'y avait pas eu le péché, nous aurions eu à offrir quelque chose à Dieu. Hier, je ne sais pas si vous êtes attentif à la première instruction de la première conférence spirituelle, Mgr Lefebvre, donc où il parlait de nos devoirs. Nous avons, en tant que créature, nous avons toujours un dû à Dieu. Quand bien même, il n'y aurait pas eu le péché originel, il y aurait eu ce dû à Dieu. Alors bien sûr que ce dû, à cause du péché, quand il y a, s'y attache une valeur de réparation, cette réparation, bien sûr, va être douloureuse. On a, en quelque sorte, retiré un bien à la gloire de Dieu, le rendre, et comme on s'y attachait, ça va être douloureux. Il y aurait une douleur. Alors soit la douleur extérieure, de la victime ou du bouc émissaire ou de ce qui est offert dans l'Ancien Testament, soit l'offrande, bien sûr, beaucoup plus haute, de quelque chose qui coûte à l'homme, voilà, pour manifester son adoration. Voilà, donc ça, c'est la première partie, je dirais, de la définition par rapport au sacrifice. Maintenant aussi, une fois qu'il y a ce sacrifice qui est opéré, donc là, c'est une vision un peu une vue d'avion, un petit peu, une fois qu'il y a la victime qu'elle est offerte, bien, cette victime, on doit s'y unir, voilà. On doit recevoir cette victime, cette sainte victime, donc dans le cas surtout de l'homme-Dieu, bien sûr. Et alors, c'est là qu'intervient le sacrement. On doit communier à la victime sacrifiée. Voilà. D'où on donnera aussi comme définition complète de la messe, ou du sacrement de l'Eucharistie. C'est aussi, donc, et c'est surtout un sacrifice réel et parfait, dans lequel il y a un acte qui est public, une oblation, une chose sensible qui est extérieure à l'homme et quelque chose qui est détruit et altéré. Voilà. Et on retrouvera, aussi bien dans les religions naturelles, les fausses religions que dans la vraie religion, on retrouvera trois choses, trois éléments constitutifs, le prêtre, la victime, et puis l'immolation. Voilà. Donc bien avoir ça, ces notions-là, je dirais que c'est l'essentiel du catéchisme, de la messe. Non, bien sûr, il faut un peu descendre dans le détail de tout cela. Et donc justement, la définition que donne saint Thomas est très, très belle, très large. Comment il exprime ça? Voilà, voici ce que dit saint Thomas, donc dans sa somme, je pense. Oui, c'est la somme. Donc le sacrifice, et après le sacrifice spécialement de la messe, une action extérieure, publique, solennelle, opérée par le ministère d'un homme spécialement député dans le but d'offrir au Dieu Très-Haut, au départ, une chose quelconque, animée ou matérielle, mais de telle sorte que cette chose détruite et transformée soit affectée au culte et à l'honneur de Dieu. Et alors, voyez-vous, une chose importante, et qui est très éclairante aujourd'hui, surtout par rapport, voyez-vous, à la nouvelle messe ou autre, c'est que vous remarquerez que maintenant, on ne dit plus la messe, on ne dit plus le Saint-Sacrifice de la messe, on dit facilement l'Eucharistie. C'est-à-dire, on a tellement, on pourrait dire peut-être, sous toute réserve, mais certains ont trouvé que depuis le Concile de Trente, on insistait trop sur le sacrifice contre les protestants, et c'était tout à fait nécessaire. Maintenant, on devrait dire plutôt, on insiste trop sur le sacrement au détriment du sacrifice. Voilà. Et en fait, le sacrement n'est sacrement que parce qu'il y a un sacrifice, et un sacrifice de l'homme-Dieu. Et ce sacrifice est plus important d'une certaine façon que le sacrement. Il faut qu'il y ait les deux, bien sûr. L'un est le fondement de l'autre, et il faut qu'il y ait les deux. Mais pourquoi? Parce que le sacrifice, il regarde Dieu. Et il est l'honneur de Dieu, et la gloire de Dieu. Le sacrement, il est plutôt à l'utilité de l'homme. Il va aussi glorifier Dieu, bien sûr. Mais il va glorifier Dieu à travers l'homme. Parce que chaque fois que l'homme est saintement glorifié, entre guillemets, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Quand l'homme est saint, eh bien cela glorifie Dieu, bien sûr. Quand l'homme est sanctifié et sacrifié, ou sacrifié et sanctifié, cela glorifie Dieu. Mais d'abord, le sacrifice regarde Dieu, l'honneur de Dieu. Et cela est très bien exprimé dans la liturgie, voyez-vous. Quand on a dû vous le dire, vous aviez, je crois, c'est aujourd'hui, vous l'avez déjà eu. Vous avez déjà eu un cours sur la liturgie? Non, le principe? Pas encore. Bon, ça va venir. Mais donc, la liturgie, culte envers Dieu, dans la messe traditionnelle, on tourne l'autel est tourné vers la croix, vers Dieu, et pas vers les hommes. Et quand on dit que c'est un repas très spécial, c'est un repas sacrificiel. Un repas qui suppose un sacrifice. Sacrifice, sacrement. Tenir les deux bouts de la chaîne. Voilà. Les deux aspects. Donc nous continuons avec les vérités que nous donne saint Thomas, qui sont tout à fait bonnes. Définitions qui sont riches, larges. Depuis que Jésus-Christ, donc, il y a eu les sacrifices de l'Ancien Testament, de la vraie religion, mais de l'Ancien Testament, qui étaient les sacrifices, on sacrifiait des boucs, mais on sacrifiait aussi des choses, des pains de maïs, etc. Il y avait 10 référentes d'ailleurs au livre du Lévitique, peut-être sur liturgie qu'on vous l'expliquera, Lévitique, Deutéronome, les différentes formes de sacrifices, sacrifice de louange, sacrifice d'hostie pacifique. Le principal sacrifice dans lequel la victime était entièrement brûlée, consommée, c'est le sacrifice d'Holocauste, Holocausta, l'animal qui était entièrement brûlé. Depuis que Jésus-Christ est immolé sur la croix, les sacrifices sanglants ont cessé sur toute l'étendue de la terre. C'est d'ailleurs une des preuves que la religion hébraïque est devenue caduque. Alors certains essaient d'ailleurs, ils voudraient bien rouvrir le temple de Jérusalem, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Sacrifice. Le sacrifice, donc, renfermera trois éléments essentiels constitutifs. Je vous ai dit, le prêtre, la victime, l'immolation. Ce qu'il y aura surtout de très important, qui doit nourrir votre intelligence, votre foi, votre piété, c'est que le sacrifice de la messe fait référence est la présentation, plutôt la représentation du sacrifice du calvaire. En fait, la messe, c'est le calvaire. Alors, le cardinal Journet, qui est aussi un bon, très bon ouvrage sur la messe, il n'est pas recommandable en tout, le cardinal Journet, mais son ouvrage sur la messe, c'est très bien. Bon, essentiellement, cardinal Journet, il est bien comme auteur spirituel. Il y a donc ce qu'on lui reproche, surtout, c'est par rapport à son traité sur l'Église du Verbe incarné, mauvaise conception, je dirais, de l'Église par rapport à la société, donc où il a eu tendance à... La royauté du Christ, c'était en gros, hein, très très gros, c'est bon pour le Moyen-Âge, mais maintenant, donc, il y a eu tendance un peu à suivre un peu les thèses de Jacques Maritain et autres. Mais enfin, pour tout ce qui est la messe, ses écrits sur la grâce, sur la prière, tous ces opuscules spirituels. C'est très, je pense que vous avez les entretiens sur la grâce, là, probablement sur les tables de presse, c'est excellent. Mais donc, il prenait cette image pour la messe, excellente. Il disait, voyez-vous, le rapport de la messe par rapport au sacrifice du calvaire, il dit, imaginez une roue. Vous avez une roue avec un centre, et puis des rayons qui partent du centre, puis la circonférence, hein, la roue au niveau du pneu. Là, ouais, bon. Et il disait, le sacrifice du calvaire est unique, comme est unique le centre de la roue. Et en fait, cette roue marche tout au long du temps, et à chaque messe, vous voyez, à chaque messe, en fait, elle fait référence uniquement au centre, parce que ce centre est réactualisé. Le calvaire est déjà, d'une certaine façon, vous voyez, on dit bien sûr qu'à chaque messe, le calvaire est présent, mais déjà au calvaire étaient présentes toutes les messes. Voilà. Dans la conception de Dieu, hein, dans la vision de Dieu, toutes les messes, elles étaient déjà présentes au moment du calvaire. Quand notre Seigneur s'est offert sur la croix, en esprit d'éternité, nous dit saint Paul, bien déjà, en germe, il y a déjà toutes les messes qui seront célébrées jusqu'à la fin des temps. Alors bien sûr, nous, c'est l'ordre inverse qui nous intéresse, qu'à chaque messe, je suis au calvaire. D'où ça vous donnera une indication pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant une messe? Ben, très bien, si vous lisez vos prières de la messe, c'est bien. Mais souvent, le prêtre, il va trop vite. Hein, là, le latin, ta-ta-ta-ta-ta. Bon, faut articuler quand même. Bon, mais enfin, on doit dire la messe normalement en 30-35 minutes. Bon. Alors, il ne s'agit pas pour vous, voyez, quand vous suivez la messe, de courir après le prêtre pour le rattraper. Mais qu'est-ce qui va vite? Il bâcle sa messe ou quoi? Moi, je lis en français. Ben, d'abord, le français, c'est plus long que le latin, dites-vous bien. Et puis, non, faites pas ça. Bien sûr que c'est bien de lire les prières de la messe, de lire le problème. Vous pouvez très bien vous arrêter à une des prières de la messe, parce que dans chaque prière, elle exprime quelque chose du mystère de la messe. Mais qu'est-ce que c'est que la dévotion essentielle à la messe? La dévotion essentielle à la messe, c'est d'être uni à la passion pendant le saint sacrifice de la messe. À partir de là, tous les moyens sont bons. Lire vos prières. Certains ont dit, oui, mais faut pas dire son chapelet pendant la messe. Si vous méditez votre chapelet en pensant au mystère douloureux, c'est parfait, c'est un bon moyen. Faut pas que ça vous distrait, bien sûr, de l'essentiel du mystère de la messe. Bon. Dites ça parce que les capucins, nous, on répond pas à la messe du côté du cœur. Je les fidèles, je sais plus comment ils font, enfin, même du côté du cœur. On fait oraison, mais pas oraison sur n'importe quoi. On fait oraison sur la passion. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, notamment pendant la messe? Des fois, on s'ennuie, ou je sais pas quoi. Vous pouvez très bien prendre n'importe quelle scène de la passion. Parce que l'esprit d'éternité qui habite chaque mystère de la passion, qui habite la passion, c'est l'esprit de Jésus-Christ sacrifié et immolé. Donc vous pouvez prendre une station du chemin de la croix. Très bien, si vous avez trouvé la dévotion, faites-le. Vous ne quittez pas du tout la messe. Vous êtes bien dans la messe, vous êtes même au cœur de la messe. Le Padre Pio disait, qu'est-ce que c'est la messe? Un mystère d'amour et de souffrance. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la messe? Aimer et nous unir au sentiment de la victime qui est sur l'autel. Voilà. C'est très essentiel, cela. Vous avez également, donc, dans les signes liturgiques, quelque chose qui vous rappelle que c'est le sacrifice. Vous savez, la séparation, pourquoi est-ce qu'il y a l'hostie et puis le calice? On sait très, sous l'hostie, il y a tout Jésus. Et dans le calice, il y a tout Jésus aussi. C'est pas seulement, il y a le corps de Jésus. Mais par concomitance, bon, c'est un terme de théologie, mais vous avez tout Jésus, vous avez sous l'hostie, vous avez le corps, le sang, l'âme, la divinité de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait aussi le sang? Voilà. Eh bien, parce que la séparation des deux, voilà, vous rappelle que ce sacrifice a été un sacrifice sanglant. Il n'est plus sanglant maintenant, il était sanglant qu'une seule fois au calvaire, mais c'est la représentation de ce sacrifice sanglant. Il n'est plus sanglant maintenant, puisque maintenant ce sont les signes liturgiques qui assument cette réalité, mais il nous rappelle ce sang que l'on vénère spécialement pendant le mois de juillet, voilà, par les très belles choses. Si, par exemple, vous pourriez prendre quelques invocations qui sont dans les litanies du précieux sang, qui ont tout à fait, qui sont pleinement dans l'esprit du sacrifice de la messe. Oui. Donc, nous rappelle ce sacrifice non sanglant, renouvellement, selon la définition du catéchisme de Trent, renouvellement du sacrifice non sanglant de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, avec même prêtre, même victime, aux quatre fins, avec quatre fins, voilà. Fin d'adoration, hein, fin de louange, hein, la politesse avec le ciel, le merci, le pardon, la réparation, et le s'il vous plaît, demande de Dieu, puis glorification. Quatre fins du sacrifice. Sacrifice d'expiation, bon, on peut commencer par l'adoration et louange, expiation, réparation, demande, et puis pure louange, la pure gloire de Dieu. Voilà. Donc, merci. Pardon, s'il vous plaît. Voilà, politesse avec le ciel. Je ne sais pas, on vous dit ça avec le prier. Oui. Demandez à Dieu, s'il vous plaît. Merci, remercier. pardon, parce qu'on ne profite pas bien des choses, et puis la pure gloire de Dieu. C'est un moyen de se, un peu mnémotechnique pour se souvenir des fins de la prière et des fins de la principale prière, qui est la messe, voilà. Qui est la suprême prière, puisque c'est la prière de l'homme-Dieu. Alors, vous voyez, c'est signifié. Et en gloire, on doit recevoir... Alors, vous, fidèles, vous recevez que, sauf dans les rites orientaux, ils reçoivent sous les deux espèces. Hein. Mais dans le rite latin, rite grec-catholique, on reçoit sous les deux espèces. C'est peut-être plus parlant. Mais c'est vrai qu'on a corps, sang, âme et divinité sous l'hostie. C'est tout Jésus. Jésus n'est pas morcelé, n'est pas mis en morceaux. De même que dans chaque hostie, vous avez autant que dans toutes les hosties ensemble. Hein. C'est tout Jésus. Voilà. Donc, ça s'opère, bien sûr, par le mystère de la transubstantiation. Le mot a peut-être été inventé, mais la réalité, non, elle n'a pas été inventée, comme pensait Luther. Le sacrifice de la messe, donc présentation nouvelle, représentation du sacrifice de la messe. C'est très bien développé aussi dans un petit opuscule du père de Chivré, qui est là, c'est très bien ce petit opuscule, qui est le sacrifice de la messe expliquée aux enfants. Et il montre vraiment que c'est un acte, voilà, un acte, il y a un acte qui s'opère. Il y a une actuation d'un acte, une activité. Alors même que vous avez l'impression de rien faire à la messe, vous participez à un acte. L'acte de Jésus-Christ vous porte. Voilà. Alors, je vais vous donner, là, justement, il exprime très bien, avant d'entrer dans le détail un peu de la messe, sur l'autel et la croix, la différence entre sacrifice et sacrement. Il exprime très, très bien. Le sacrifice a cela de commun avec le sacrement qu'il est comme lui un signe extérieur et visible. Hein, c'est la définition des sacrements dans le catéchisme. Destiné à exprimer et à opérer une chose sacrée. Mais il diffère du sacrement en ce sens que le sacrement a pour effet immédiat la sanctification de l'homme et la transmission de certaines grâces ou aptitudes surnaturelles suivant un ordre déterminé. Le sacrifice, lui, a pour objet immédiat l'honneur dû à la majesté divine et la reconnaissance de son infinie souveraineté. Alors, un autre aspect de la différence, l'excellence du sacrifice est supérieure à celle du sacrement. Le sacrement ne profite qu'à celui à qui il est administré. Tandis que le sacrifice est salutaire pour tous. Voilà. De soi, déjà, la simple assistance à la messe, déjà une valeur infinie, voilà, à cause de celui qui s'offre. Donc voilà pour l'aspect sur la messe sur lequel je voulais insister. Bon, les parties de la messe, évidemment. La messe à proprement parler, bien sûr. On va pas faire comme les Italiens à certaines époques des années 50 ou 60. Ils arrivaient juste pour l'offertoire, pour avoir leur messe. Ah, bon, pas faire ça. Bien sûr que l'essentiel de la messe, est bien sûr, offertoire, consécration, communion. Trois parties essentielles de la messe, d'accord. Mais dès l'offertoire, voyez-vous, lorsque le prêtre a offert la Sainte Hostie, offert le vin qui deviendra le sang de notre Seigneur, déjà les oblats ont déjà en vue le sacrifice. Voilà. Il ne pourrait pas s'arrêter au moment de l'offertoire. Si la messe s'arrête au moment de l'offertoire, si le prêtre mourrait au moment de l'offertoire, il faudrait qu'on aille jusqu'à la consécration, qu'on continue. Parce que le sacrifice est en marche dès l'offertoire. Ensuite, donc, dans le canon, là, le Padre Pio disait, c'est l'entrée dans le voile sacré. Voilà. Là, vraiment, le Saint des Saints, canon, la règle du canon, qui ne change pas, parce qu'elle exprime vraiment la vérité essentielle du sacrifice. Voilà. Méditer, relire de temps en temps, posément, même en lecture spirituelle, relire le canon de la messe, un peu. Hein. Il s'y trouve un peu toutes ces vérités que je vous expose, là, elles s'y trouvent. Dans les formules liturgiques. Donc ensuite la consécration, voilà. Puis ensuite donc communion du prêtre à la victime et communion donnée aux fidèles. Voilà. La grâce principale de la messe, c'est bien sûr de rendre gloire à Dieu et de lui faire réparation par Jésus-Christ. Et mes deuxièmes grâces à travers le sacrement, à travers la communion surtout, eh bien, c'est en nous unissant au sacrifice, nous allons avoir la force nous-mêmes de mener notre vie de sacrifice pour la gloire de Dieu. C'est la principale force qu'on trouve dans la messe. C'est ce qu'expliquait Monseigneur lorsque, je ne sais plus si c'était le jubilé épiscopal ou le jubilé sacerdotal, je ne me souviens plus bien, mais qu'il a fait à Paris, là, pour les 50 ans ou 60 ans, je ne me souviens plus bien. Mais il disait, pourquoi tout était fondé? Pourquoi toute la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ est fondée sur le saint sacrifice de la messe? Pourquoi c'était fondé sur le sacrifice de Jésus-Christ? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ nous donne la force à nous d'accomplir notre sacrifice à nous. C'est dans le sang, c'est dans le corps de Jésus que nous trouvons la force, eh bien, de produire nous-mêmes notre sacrifice. Voilà. C'est le fruit principal de la messe. Et pas un sacrifice d'ailleurs seulement voyez-vous, le sacrifice, je dirais, individuel, mais aussi ce sacrifice qui fait vivre les familles, qui fait vivre les sociétés. C'est pour ça que c'est vrai que le moyen principal et providentiel pour la royauté sociale, c'est la messe. Et c'est pour ça que les ennemis de l'Église, ils attaquent la messe. C'est pas des idiots, et le démon, c'est pas un imbécile, quoi. Ils attaquent la messe, parce qu'ils savent que c'est le cœur. Comme saint François de Sales disait, la messe, le Saint-Sacrifice, c'est le soleil de la dévotion. Il y a toutes sortes d'expressions. C'est le centre, vraiment, de la religion. Vous enlevez la messe, il n'y a plus de catholicisme, c'est fini. Et ça, il a bien compris, Luther. Plus de messe, plus de prêtres, plus d'église. Plus de visibilité de l'église, tôt ou tard. On voit bien, les protestants, ce que ça donne.
Alors, je voulais vous donner quelque chose de pratique aussi, pour vous pénétrer de la grandeur de ces vérités. Quelques pensées du Padre Pio, même si nous allons, je suppose, encore en écouter peut-être ce soir.
Donc, toujours bien, si vous voulez, quelle est la manière aussi de profiter de la messe, non seulement pendant la messe, mais hors de la messe, c'est chaque jour, un chrétien devrait, alors c'est l'avantage d'ailleurs de ceux qui disent les prières de Sainte Brigitte, ou les sept Pater Ave, ou que sais-je, ou qui prennent des stations du chemin de la croix, comme ils conseillent de le faire au Pointet, depuis quelque temps, me semble-t-il. Chaque jour, il faut méditer la Passion. Alors, soit, même en dehors de la messe, méditez un peu la Passion. Ne serait-ce qu'en disant quelques mystères douloureux. Ça, c'est très bonne façon. Pourquoi ? Parce que c'est la Passion du Christ qui est renouvelée. Voilà. Et nous sommes dans cette Passion. Voilà, comme disait le Père de Chivray, là, dans son opuscule, nous ne sommes pas des spectateurs seulement, ou des gens distraits qui préfèrent aller faire de la bicyclette qu'aller à la messe le dimanche. Voilà. Pourquoi ? Parce que nous sommes des acteurs, et nous sommes même les principaux sacrificateurs. Qui a tué Jésus-Christ ? Ce sont nos péchés. Voilà. Et c'est précisément le grand mystère de Dieu, c'est qu'à travers, ça vous sera expliqué surtout dans la Passion ce soir, donc je ne vais pas entamer sur ce sujet-là, c'est quasiment le même sujet, je dirais, la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est simplement la messe. Il suffirait d'expliquer la Passion de Jésus-Christ du point de vue de la liturgie, et c'est tout bon. On a tout le mystère de la messe. Bon, vous aurez la Passion ce soir, donc je ne vais pas insister sur la Passion, mais c'est bien ça, quoi. Si on a ça, on a tout la messe. On a l'essentiel de la messe. Voilà. Alors, vous donnez ça dans Padre Pio, les remarques très, très fortes. Père, qu'est-ce que c'est que votre messe ? Alors, un complément sacré de la Passion de Jésus. Vous voyez, le principal prêtre reste toujours le Christ. Nous ne sommes que les ministres, même si nous disons au moment de la consécration, hoc est corpus meum, bon, d'accord, c'est Jésus-Christ qui prononce par nos lèvres. C'est lui le principal prêtre, nous n'avons que des ministres. De réels ministres, qui ont un réel pouvoir, mais c'est lui qui offre principalement, c'est lui qui prie principalement. Alors, vous voyez, application pratique. Mon père, je m'ennuie, j'ai des distractions, je sais pas quoi. Monsieur, madame, c'est pas vous qui priez d'abord à moi, c'est le bon Dieu. Alors, souffrez avec patience vos distractions, faites ce que vous pouvez, mais vous désespérez pas. Jésus-Christ, il prie. Et tous les saints, ils prient pendant la messe. Et spécialement, c'est-à-dire, la meilleure façon d'assister à la messe, on me prie Padre Pio. Assiste à la messe avec la Vierge des douleurs au pied de la croix. Si tu as cet esprit-là, ta messe sera toujours fructueuse. Que dois-je lire dans votre messe? Disait-il. Tout le calvaire. Ensuite, parlait de, lui, il revivait la souffrance de Jésus-Christ, évidemment, comme prêtre. Je revis tout ce qu'a souffert Jésus dans sa passion. À ma manière, je le souffre aussi, autant qu'il est possible à une créature humaine. Et alors, il disait que sa responsabilité était unique. Évidemment, on voit, lui, c'est la réalisation très parfaite du prêtre, le Padre Pio. Père, comment pouvons-nous connaître la passion? En connaissant ma passion. Parce que je souffre tout ce que souffre Jésus-Christ. Père, comment pouvons-nous connaître votre passion? En connaissant la passion de Jésus, dans celle de Jésus, vous trouverez aussi la mienne. Alors ça tout prête, bien sûr, on peut le dire, plus ou moins. Elle est fidèle aussi. Oui. C'est sûr qu'on a, au concile, on a trop dit, et évidemment, au détriment du sacerdoce ministériel. Mais il y a un réel sacerdoce commun des fidèles. Alors, en insistant trop, bien sûr, on se dit, il n'y a plus de prêtres. Mais vous êtes aussi les propres prêtres et les propres victimes des sacrifices que vous faites en vous unissant à Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, par l'intermédiaire du sacerdoce ministériel du prêtre, d'accord, mais vous aussi, vous exercez un sacerdoce. Alors, je dis pas ça pour... attention, le père le protestant ou moderniste, attention. Non, c'est vrai, mais là encore, le chemin de Crète, il y a un sacerdoce ministériel, mais il y a aussi un sacerdoce commun. Alors, bien sûr, alors... toutes ces vérités-là, il faudrait toujours les expliquer avec ce qu'on appelle en théologie l'analogie. Et souvent, on ne fait pas des analogies. Une analogie, c'est une ressemblance et une différence. Mais alors, pour les vérités divines, très souvent, la différence est plus importante que la ressemblance. Et c'est comme ça que souvent, les vérités partent dans tous les sens, dans la religion, même en philosophie. Suite de la passion. Agonisez-vous, Père, comme Jésus au jardin des Oliviers. Bien sûr. Pourquoi je vous parle de la passion, là, Père Pio ? Parce que, pour vous faire comprendre que, à la messe, tous les mystères douloureux de Jésus s'y trouvent. Quand notre Seigneur, dès le premier instant de l'incarnation, dit « Tu n'as plus voulu des holocaustes » et j'ai dit « Ô Père, me voici pour accomplir ta volonté. » Et il s'offrait déjà en esprit, déjà prêtre dans le sein de Marie, sous son cœur, il est déjà prêtre. Il offre déjà sa messe. Voilà. Toute sa vie est une messe, notre Seigneur, qu'il va consommer, d'accord, sur la croix, mais sa vie est une messe. C'est offert en esprit d'éternité. Bon, ça vous sera développé ce soir, attention, pas déborder. Bien. Donc, offrande perpétuelle, en esprit d'éternité, comme prêtre, comme victime, qui peut réparer le péché. Alors, il dit tous les mystères. L'incarnation, l'agonie, la flagellation, tout, toute la passion s'y trouve. Alors, donc, à travers... Ah, le Padre Pio. Quand souffrez-vous le plus de la consécration à la communion? Présence du Christ douloureux. Il est glorieux, mais en même temps, il offre ses mérites passés. Et ses mérites réactualisés qui deviennent présents par le... Vous voyez, au moment de la messe, c'est toute la richesse de Jésus-Christ, c'est tout le calvaire qui est là. Vous voyez, Jésus glorieux, il est là, mais il offre ses plaies glorieuses, les mérites éternels de ses plaies. Vous voyez, quand on dit, oh c'est une image, les plaies sanglantes de Jésus qui... Non, c'est l'image de la grâce, de la réalité de la grâce qui descend dans les âmes. Oui, d'ailleurs ceux qui, les prêtres qui ont eu parfois des visions ou religieux, ils voyaient le sang qui coulait de l'autel. Pour signifier quoi? La grâce, elle coule de l'autel. Bien voir ça. Bien, si vous êtes bien pénétré du sacrifice, de la passion, de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, que toutes les grâces sont présentes à ce moment-là, au moment, vous assisterez toujours bien à la messe, quelles que soient vos distractions. Ne pas vous inquiéter de ça. C'est toujours digne. Enfin, Dieu vous rendra digne. Alors, on va donc, maintenant, il faudrait que je vous parle quand même un peu de la communion. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la messe. Bon, ça peut vous mettre en appétit de lire des gros livres comme ça ou des plus petits livres. Lisez des choses sur la messe voilà, pour renouveler. Renouveler votre... Voilà, avoir le sentiment vif de quelque chose de vivant. Voilà. La communion. Alors, première chose, d'une certaine façon, je vais peut-être un peu contredire ce que je viens de dire par rapport au sacrement, parce que le sacrement, il est pour nous. Oui, c'est vrai. Mais d'abord et avant tout, dites-vous bien, je ne communie pas pour moi d'abord. Je communie pour Jésus-Christ. Ça fait plaisir à Jésus-Christ de venir en nous. Et quand saint Augustin dit... Quand tu manges Jésus-Christ, tu crois que c'est toi qui le manges, c'est lui qui t'absorbe en lui. C'est lui qui nous mange. Ah, oui, c'est comme ça. Pourquoi c'est important de se redire ça? Oh, j'ai de la dévotion, j'ai pas de dévotion, je suis digne, je suis pas digne, j'ai les ailes qui me poussent comme un séraphin, ou au contraire... Jésus-Christ est en moi, le reste, je m'en fiche. Il est là, il est là. Dévotion, pas dévotion, vous êtes là, Seigneur. Vous êtes toujours le pain vivant. Vous êtes toujours le vrai Dieu. Vous êtes là. Voilà. Ah oui, je voudrais bien, c'est sûr, vous avez un cœur de, le cœur de la Sainte Vierge Marie et des anges pour vous. Bah non, c'est pas ça. Des oraisons sèches, blasées, etc. Et puis, pour une consolation, une communion consolante, des dizaines pas consolantes du tout. Pleines de distractions. Est-ce que c'est d'abord ça l'important? L'important, c'est votre dévotion essentielle. Je viens là parce que je veux faire plaisir à Jésus-Christ. Il est content de venir en moi. Voilà. Parce que c'est le plaisir de Dieu d'habiter en nous. Voilà la joie de la communion. Je veux faire plaisir à Jésus-Christ. Voilà. Il est là, son âme, son corps, son sang, sa divinité. Voilà. Alors après ça, les désolations, les distractions, c'est des épreuves, c'est des difficultés. L'amour ce n'aurait pas de sucre et de crème chantilly. Bon. Voilà. Du solide, du nourrissant. Je vais à Jésus-Christ pour nourrir mon âme, le nourrir lui et me nourrir moi. Nourrir le dessein qu'il a de me donner, ses grâces d'amour. Mais nourrir aussi mon âme, nourrir mes vertus, que j'ai un peu plus de muscles spirituels. Voilà, je vais pour ça. Je vais pour avoir des forces. Voilà. Et le reste, pas d'importance. Avoir cette conviction. Ayant de la conviction, de la foi. Je vais pour ça, pour me nourrir. Pas d'abord... Ah, après ça, si vous avez ça, donnez-lui donner les consolations. Puis s'il veut pas vous consoler pendant la communion, il va vous en donner à d'autres moments de la journée. Quand il voudra. Le but, c'est pas d'abord la consolation. Ou sensible, surtout. Comme joie de savoir que le Créateur... Alors, voilà ce que dit le Padre Pio. Quand Jésus vient, visite-t-il seulement votre âme? Il visite tout mon être. Ça veut dire que la communion a une influence pas seulement sur mon âme, elle a une influence sur mon corps. Ah, oui. Vous avez peut-être expérimenté ça. Il y a des communions qui nous apaisent même physiquement. Voilà. Oui, bah, c'est normal. Nous sommes, n'oublions pas, je reçois la chair glorieuse de Jésus-Christ. Donc elle me touche ma langue, mon estomac, et puis tout le reste, le sang qui est en moi, tout. Voilà. Et donc la communion aussi a une influence sur notre corps. D'abord sur notre âme, mais sur notre corps aussi. Quand Jésus vient, visite-t-il seulement votre âme? Il visite tout mon être. C'est pas répit, ok. Bon. Que fait Jésus à la communion? Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, ça rejoint ce que dit. C'est Padre Pio qui dit, c'est pas moi. Il se réjouit de sa créature. Ah oui? Oui. Ah, pourtant, je suis pécheresse. Etc. Oui, il se réjouit de sa créature. La communion est-elle une incorporation? C'est mieux qu'une incorporation, c'est une fusion. Comme deux cierges, c'est Padre Pio qui répond, deux cierges fondent ensemble et ne se distinguent plus l'un de l'autre. Ah oui? Oui. Quand vous vous unissez à Jésus dans la Sainte Communion, que devons-nous demander pour vous au Seigneur? Bon, que je sois moi aussi un autre Jésus. On priait pour les prêtres, pour la communion, mais priez pour la sainteté de l'Église. La communion la plus fructueuse, même pour nous, c'est de prendre les grandes intentions de l'Église. Voilà. Donc je disais, on communie pour faire plaisir à Jésus. On communie pour glorifier Dieu. On communie pour que la sainteté dans l'Église grandisse. Et si je veux la sainteté générale, bon Dieu, il veut ma sainteté particulière. Alors c'est pas dire qu'ensuite on peut pas demander ses besoins particuliers. Il le veut, Jésus, bien sûr. Mais quelle vivacité, quelle force auront nos petites grâces spéciales ou très particulières ou très matérielles quand elles seront portées par les grandes intentions de Dieu? Par cette communion, je veux vous glorifier, je veux qu'il y ait plus de sainteté, je veux que soit donné plus d'amour dans l'Église, que vous fassiez naître des saints, et puis je veux bien en être si vous voulez, voilà. Pourquoi pleurez-vous quand vous faites la communion? Et c'est l'Église dit, elle fait un cri. Voilà. Tu n'as pas à mépriser d'habiter sous le cœur de la Vierge en parlant de l'incarnation. Que devrions-nous dire, nous qui sommes si misérables? Voilà. Dans cette union, est-ce que Jésus vous console? Oui, mais on ne cesse pas pour autant d'être sur la croix. C'est le grand paradoxe chrétien, on vous en parlera, je pense, dans la Passion ou quand on vous parle un peu de... mystère de la souffrance, grand paradoxe chrétien, c'est qu'on peut parfaitement être dans l'épreuve et en même temps très uni au bon Dieu. Voilà. La distraction, des tentations, etc. Si la volonté, elle met le cap sur le bon Dieu, c'est pas mauvais du tout pour nous, au contraire. Quelle gloire la messe, Padre Pio, quelle gloire la messe procure-t-elle à Dieu? Gloire infinie. Que devons-nous faire pendant la messe? Vous voyez, éprouver de la compassion, bon, c'est-à-dire sortir les mouchoirs, mais compatir. Il y a quelqu'un qui souffre pour moi et à cause de moi. Éprouver de la compassion et chercher à aimer. Comment devons-nous assister à la messe? Y participer. Comme y assistèrent la Sainte Vierge et Sainte Femme. D'où l'importance de prier la Sainte Vierge pendant la messe. La Vierge des douleurs, elle a prié qu'elle nous donne l'esprit de ça. Ça nous dépasse, mais bon, ça fait rien. Elle n'est pas dépassée par ça. Comme la Sainte Vierge et les Saintes Femmes, comme Saint Jean assista au sacrifice eucharistique et au sacrifice sanglant de la croix. Quel bienfait recevons-nous en l'écoutant? On ne peut pas les énumérer, vous ne les verrez qu'au paradis. Alors vous trouverez aussi, j'ai trouvé un très très bon résumé, à la fois du sacrifice. Certains ont peut-être, j'aime bien, je le relis au moins tous les trimestres. Vous avez dans l'ordo, là, ceux qui ont des ordos, là, pour suivre le calendrier, chez eux au moins. Avant, donc vous avez d'abord le calendrier, là. Bon, après vous avez des bons de commande, évidemment. Bon. Et juste après, vous avez un texte qui s'appelle, édité par un prêtre, un évêque canadien dans les années 50, « La Sainte Messe, c'est ma vie ». Et il énumère un peu tous les fruits de la messe, tout ce que je viens de vous dire. C'est bon de le relire de temps en temps. Il énumère un peu tous les fruits. « Pour m'unir à Jésus, prêtre et victime, par lui, avec lui, en lui, rendre gloire et honneur au Père Tout-Puissant, j'offre messe et communion de chaque jour. » Alors c'est bien. Assister un peu plus qu'à la messe du dimanche. Par la pensée, je veux assister aux messes qui se disent sans cesse tout autour de la terre. Adorer notre Seigneur aussi dans les tabernacles, là où il est. Car je sais qu'à toute heure du jour et de la nuit, le Saint Sacrifice est offert à Dieu. On avait proposé, je ne sais pas si ça s'est fait, mais dont Lefebvre, dans les années 30, l'avait très bien fait dans son missel. Et je pense que maintenant, avec la messe traditionnelle, on pourrait faire un calendrier horaire de tout l'univers à tout moment. Là, je vois chez les sœurs du Raffleux si elles ont au-dessus de l'autel, une grande carte de toute la planète, là. À tous les endroits, il y a des messes qui sont célébrées à tout instant. Dès que je me recueille, je puis m'unir à une hostie et un calice qui s'élèvent entre le ciel et la terre, au pied de la croix toujours dressée depuis le calvaire. Je les offre à la très sainte Trinité pour ces grandes intentions que je vous ai dites, la gloire et le règne de Jésus-Christ, la conversion des pécheurs, la délivrance des âmes du purgatoire. Quand les âmes du purgatoire apparaissent, qu'est-ce qu'elles demandent ? Des messes ! Des messes, des messes, des messes. Pour l'expansion de la Sainte Église, pour ma propre sanctification et pour toutes mes intentions personnelles. Alors souvent, on commence par les intentions personnelles, puis il n'y a plus que ça. Ben, c'est pas mal, mais ayons aussi à cœur, au moins aux grandes fêtes liturgiques, faisons-nous un cœur bien catholique, bien large. Aux quatre fins du sacrifice, adorer, remercier, réparer, demander. Hein, qui sont aussi les principaux devoirs de la religion. Savoir remercier. Quand nous sommes malheureux, essayons d'abord de voir, bon, ça n'aide pas toujours, mais les plus malheureux que nous, ça nous aide toujours. Et puis, les bienfaits qu'on a. Voilà. On avait un père dans notre, chez les Capucins, là. Et moi, la première grâce que m'a faite, c'est de naître auvergnat. Bon. Bah oui. Bon. Voilà. Bon. Il y a toutes sortes de grâces, même naturelles. La valeur infinie du saint sacrifice de la messe. Bon. Mort de notre Seigneur Jésus-Christ. On en a parlé. Après la consécration, Jésus est aussi réellement présent sur l'autel qu'il l'était dans l'étape de Bethléem, à sa naissance dans la lunéole, sur l'autel ou sur le calvaire. Notre Seigneur a révélé à Sainte Mectile que nous pouvons à la Sainte Messe offrir Jésus à son Père. Et oui, évidemment. Comme un trésor qui nous appartient. Qu'il est beau ce texte. Bon, je sais plus d'un grand, peut-être Saint-Jean de la Croix. Tout est à moi. Tout est à moi. Moi, je suis au Christ, mais tout est à moi. Tous les trésors de la religion sont à moi. Le Christ, la Vierge, les sacrements. Tout est à moi. Moi, je suis au Christ. Voilà. Au moment où le prêtre élevait la Sainte Hostie, Sainte Colette a vu notre Seigneur sur la croix, couvert de sang et de plaies, et priant pour les pécheurs. Saint Laurent Justinien dit que des centaines de pécheurs sont sauvés par les prières que Jésus fait pour eux à la Sainte Messe. D'ailleurs, Saint Laurent Justinien a une très belle chose. Ouh, ça va sonner. Bon. Il dit, il a eu la révélation que notre Seigneur avait fait sur la croix, la prière, la grâce de rester jusqu'à la fin des temps sur la croix. Et que c'est notre, pour manifester, voilà, le désir infini qu'il avait de nous sauver, il a demandé à son Père de rester jusqu'à la fin des temps sur la croix. Et le Père lui a dit, non, je veux pas. Par contre, j'ai inventé un moyen pour toi, qui va être la messe. C'est beau, hein, de penser que notre Seigneur, il aurait, pourtant il souffrait beaucoup sur la croix, il aurait voulu que ça dure pas 3 heures, mais jusqu'à la fin des temps. Ben, il a trouvé le moyen par la messe. Par des âmes, ensuite, qu'il s'unit. Avec une seule messe entendue dévotement, nous procurons à Dieu plus de gloire, plus de mérite, que toutes les autres prières et bonnes œuvres. Ah, c'est bien, donc faudrait que je fasse toute la... Patrick, oui, vous voulez rester tout le temps à l'autel, ou tout le temps à la messe. Non, il faut aussi, bien sûr, accomplir notre devoir, mais en union avec la messe, l'esprit de la messe. Par une seule messe, nous expions plus de péchés que par les pénitences les plus austères. Mais s'assister avec foi. Les messes que nous entendons dévotement pendant notre vie sur la terre nous sont plus utiles que celles qui seront offertes pour nous après notre mort, même si c'est bon d'en faire offrir. Lorsque nous assistons à la Sainte Messe pour honorer un saint, nous faisons ce qui lui est le plus agréable, parce qu'il prend alors toutes nos intentions à cœur. Ensuite, il donne différents fruits, là. Qu'est-ce qu'on obtient en assistant avec dévotion au saint sacrifice? On préserve de bien des malheurs soi-même et ceux pour lesquels on prie. Voilà. On obtient des bénédictions non seulement pour les affaires spirituelles, mais même pour les affaires temporelles. Quand on pense que dans, vous voyez, les délicatesses églises, l'église qui fait prier, il y a une messe pour le beau temps. Qu'est-ce que ça va avoir le beau temps? Bah oui. Parce que à travers ce beau temps, et l'action de grâce qu'on aura pour une fête, une cérémonie, une excursion, que sais-je, un mariage, on va plus aimer Dieu. Alors on dira une messe pour le beau temps. Ad serenitatem. Pour la sérénité, le beau temps. Voilà. Bon. On obtient le pardon des fautes vénielles dont on est résolu de se corriger. Ah, et si je suis pas résolu, je demande la grâce de devenir résolu. Ah. On obtient la force de vaincre les tentations. On obtient la conversion des pécheurs, la guérison des malades, la délivrance des âmes du purgatoire. Demandez aux âmes du purgatoire de vous donner la dévotion pour la messe. Elles le veulent. Oui. Il faut prier pour les âmes du purgatoire, mais aussi les prier. Elles ont tellement soif du sang de Jésus dans la messe. Et elles nous donneront plus cet esprit de sacrifice dont on a autant besoin. La grâce de faire une bonne mort. La grâce de souffrir moins dans le purgatoire. Ah, au sujet là, Les âmes qui ont regardé avec le plus dévotion la Sainte Eucharistie au tabernacle ou dans le Saint-Sacrement, eh ben, mériteront une plus grande vision de gloire, nous dit Sainte Gertrude ou Sainte Mechtilde. Donc faisons célébrer des messes, bien sûr, et puis surtout participons-y avec foi, alors, toutes les intentions qui existent. Au sortir de la vie, lorsque le souverain juge nous demandera compte de toutes les actions de notre vie, il mettra dans la balance nos mérites et nos péchés, les messes offertes et entendues dévotement seront d'un grand poids pour notre salut, surtout si nous avons pris part au Saint-Sacrifice par des communions faites dans l'esprit, je vous ai dit tout à l'heure. En manquant une messe, par négligence, c'est comme la perte d'un prix infini. Voilà. Sachons faire des sacrifices pour ne pas manquer la messe. Offrez bien sûr, ça on le fait pendant la communion, votre corps, votre âme, votre cœur, avec ses affections, avec vos travaux, avec vos peines, avec vos joies. Ah, l'impression quelquefois que les joies sont absentes. Enfin, l'offrande des joies est absente de la prière de certains de catholiques. Les épreuves de la journée qui commencent. En retour, Jésus vous donnera à manger la Sainte Hostie. Il vous communiquera sa vie divine. Il vous comblera de ses grâces et de ses bienfaits. Par la messe et la communion, vous commencerez déjà à vivre de la vie des bienheureux du ciel en attendant d'aller jouir avec eux de la vision béatifique. Alors il termine par trois affirmations, nous allons prier un petit peu ensemble. Voulez-vous glorifier Dieu, honorer les saints, assister dévotement à la messe? Voulez-vous sauver beaucoup d'âmes, assister dévotement à la messe? Voulez-vous obtenir beaucoup de grâce, voilà, assister dévotement à la messe? Voilà. Alors, profitons pendant les temps de retraite, en principe, vous avez plus de temps pour assister calmement. Je pense notamment à des mères de famille qui... Mon père, ma messe et ma communion se passent à m'occuper de mes enfants parce que ça bouge dans tous les sens. Bon, eh bien, profitez là peut-être de ce temps de messe que vous avez pour prier calmement, pour offrir peut-être même ces messes que vous estimez ou les communions que vous estimez ne pas avoir fait suffisamment bien. Vos communions de retraite peuvent très bien servir un peu de réparation, voyez. Et puis aussi, pensez bien, quand vous communiez, quand vous assistez à une messe, communiez aussi en esprit de préparation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous communiez le dimanche, vous savez que vous n'aurez la messe que dimanche prochain. Tant mieux si vous l'avez en semaine. Quelle grâce, quelle joie. Eh bien, offrez-vous, voyez, offrez votre communion, plongez dans votre communion tous les actes que vous allez faire jusqu'à la prochaine communion. Par exemple, je prends un exemple. Vous avez du mal à faire votre prière du matin. Vous l'oubliez. Bien, pendant que Jésus est là, vous lui dites, écoutez, Seigneur Jésus, j'ai du mal à prier le matin. Alors voilà. Je vous offre tout mon cœur pour mieux faire ma prière du matin durant la semaine. Je vous offre ma bonne intention dès maintenant. Bon. J'ai telle difficulté de l'enseignement avec telle personne. Je vous offre dès maintenant. Puis on fera le point. Seigneur Jésus, j'ai du mal avec mon examen de conscience. Je vais peut-être avoir beaucoup de mal toute la semaine. Dimanche prochain, on examine. Voilà. Et vous donnez des rendez-vous comme ça. Vous faites comme le Saint curé d'Ars, vous savez. Vous savez ce qu'il fait, le curé d'Ars? Il travaille avec son frère, là, tac, 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 dans le champ, là, de Sillon. Puis le frère qui était plus grand, plus fort, plus etc., il avançait beaucoup plus vite que lui. Alors c'est ça, curé d'Ars, qu'est-ce qu'il faisait? Il est prêt à porter une petite statuette de la Vierge, il lançait la statuette de la Vierge au bout du sillon, et puis tchiii, et moyennant quoi, il dépassait largement son frère. Alors pour la communion, vous faites pareil. Vous lancez votre cœur jusqu'à la prochaine communion, ça va sûrement être bon. Puis vous confiez, vous n'oubliez pas de confier votre communion à la Sainte Vierge, à Saint-Joseph. Gardez-moi jusqu'à la prochaine communion. Mon bon ange, gardez-moi jusqu'à la prochaine communion. Vous verrez, vous sanctifierez beaucoup plus vite. Même si le bon Dieu vous le dit pas.